RCF.
Les plus connus s'appellent Geneviève Antonios de Gaulle, Edmond Michelet ou Éloi Leclerc. Mais ils sont innombrables, ces chrétiens qui ont été déportés dans les camps nazis et dont la foi en un Dieu de miséricorde et d'amour a été confrontée à l'horreur, à l'indicible. Comment garder la foi à Dachau ou à Buchenwald? Et comment la vivre, cette foi? Ce sujet sensible est le thème de votre livre, Adrien Loindre, bonjour.
Bonjour.
Ce livre est paru aux éditions Salvatore et il s'intitule « Dieu n'est pas mort en enfer, les chrétiens dans les camps nazis ». Vous êtes diplômé d'un master en histoire de l'université de Picardie, Jules Verne. J'aimerais savoir, Adrien Loindre, pourquoi ce sujet vous intéresse?
Pour de multiples choses. Tout d'abord pour mon histoire personnelle, étant chrétien moi-même et converti au christianisme moi-même. Et en réalité, ça joue sur mon chemin spirituel, notamment parce que j'ai été très touché par des personnalités assez connues du grand public, comme Etil Soum, par exemple. Et du coup, j'ai toujours voulu travailler sur cette question. Je savais pas exactement comment le dire, mais voilà, c'est toujours quelque chose qui m'a touché. Et c'est aussi quelque chose de très familial. Je me souviens de longues conversations avec mon grand-père, qui était prof d'histoire-géographie, et qui me disait « Moi, j'ai perdu la foi parce que je ne comprends pas Auschwitz. Je ne comprends pas pourquoi les enfants à Auschwitz. » Et ça, pour moi, c'est insupportable. Et donc voilà, c'est ce que me disait mon grand-père. Et moi, ouais, je vous dis, ça m'a vraiment énormément touché. Et dès la fin de ma licence d'histoire, je me suis dit, voilà, je pense que je veux faire un master cette question. Et j'ai réussi à trouver un professeur, Xavier Boniface, qui lui aussi n'était pas contre, loin de là, de travailler sur cette question, avec qui j'ai pu beaucoup travailler, et qui m'a vraiment accompagné dans ce travail.
Est-ce que c'est un sujet qui a déjà été exploré par les historiens?
Alors, de manière assez curieuse, presque pas, voire pas du tout, en réalité. Pourquoi? Parce que l'historiographie, notamment sur toutes les questions autour de la Shoah, en réalité, ne commence qu'à la fin des années 70, la série Holocauste aux États-Unis, puis Shoah en 86 par Claude Lanzmann, qui est assez connu. Et donc les historiens, en fait, commencent à travailler sur le génocide juif en tant que tel, vraiment uniquement à partir de ce moment-là. Donc, soyons très clairs tout de suite, on pourra revenir dessus, mais ici nous ne parlons pas de génocide, hein, il n'y a pas un génocide des chrétiens dans les camps nazis, j'insiste lourdement là-dessus, il n'y a pas du tout de concurrence mémorielle, hein. Et donc, même si effectivement ce dont on parlait est extrêmement important, il y a quand même énormément de gens qui sont concernés, mais évidemment beaucoup moins que pour la Shoah, donc ce n'est pas été le sujet qui a été travaillé en premier. Et puis très souvent, et je le montre aussi moi-même d'une certaine manière, ce sont les historiens concernés par la question directement qui la traitent, et ça dépend de peu de personnes si vous voulez. Donc il s'avère que ce n'a pas été ou que très peu traité.
Vous pensez qu'il y a une forme de scrupule à s'intéresser à cette question, alors que par ailleurs, ce sont 6 millions de Juifs qui ont été exterminés dans les camps d'extermination nazis?
Je ne dirais pas de scrupule, mais je dirais qu'il faut faire très attention. Et puis, c'est pas simple de se dire, on va se lancer un an et demi à travailler sur les chrétiens dans les camps nazis. Et puis finalement, assez peu sont les chrétiens qui parlent de la question. Et puis, je pense qu'il y a encore autre chose. D'un point de vue théologique, on en parlera plus tard, mais il y a cette idée que pour les chrétiens, le Christ est ressuscité. Donc les chrétiens ne se posent pas forcément la même question que les juifs, puisque Mgr Gobillard, l'actuel évêque auxiliaire de Lyon, me disait évidemment que Dieu est mort à Auschwitz puisqu'il est ressuscité. Donc on parlait de mon questionnement familial autour de cette question, mais pour lui c'était très simple. Pour les juifs, ça l'est beaucoup moins. Pour les juifs, ça l'est beaucoup moins. Et du coup, je pense que les juifs ont beaucoup plus travaillé cette question, notamment à cause de ça. Et puis, bien sûr, pour leur histoire en tant que nation d'Israël, par exemple, et évidemment qu'en tant que croyants juifs.
Sur quel document vous êtes-vous appuyé pour faire cette étude et pour écrire ce livre? Quelles sont les sources? C'est la question incontournable, hein, quand on s'adresse à un historien.
Tout à fait. Peut-être d'abord aussi dire un écueil. Très simple, c'est que malheureusement, les chrétiens sont relativement peu nombreux et évidemment, les déportés eux-mêmes sont peu nombreux. Donc ça veut dire que, et ça a été assez difficile, c'est que on peut interroger très peu de déportés vivants. Donc il y en a, je pense à monsieur Roger Boulanger et à monsieur Raphaël Israël, qui parlent de leur rapport à la foi et de leur rapport au christianisme de manière très succincte dans leurs témoignages. Donc on a pu en discuter de vive voix et c'était vraiment très riche. Mais au-delà de ça, il y a évidemment énormément de sources de déportés qui depuis sont décédés, et il y en a, on va dire, allez, au moins une cinquantaine. qui sont des sources directes, hein, c'est-à-dire vraiment écrites par les déportés eux-mêmes. Ensuite, il y a des bibliographies, notamment je pense à l'ouvrage de Nicole Rodolphe, qui est une étudiante américaine en 2009, qui a écrit un ouvrage sous la direction d'Anne Vivorka sur cette question, et donc je m'inspire énormément quand même de ce qu'elle fait, mais son travail fait 100 pages, le mien en fait 350, et elle, c'était un aspect plus sociologique et moi plus historique. Mais quand même, elle a eu la chance de pouvoir faire beaucoup de témoignages, puisqu'elle, comme ça date de 2009, si vous voulez, elle a 10 ans d'avance, ou alors moi j'ai 10 ans de retard, comme vous voulez. Donc je m'appuie beaucoup là-dessus. Et puis par contre, bien sûr, il faut faire très attention à la manière dont l'historien traite ces témoignages. Pourquoi? Parce que certains vont écrire tout de suite après les camps, c'est assez rare, mais il y en a quand même quelques-uns qui écrivent tout de suite après les camps, donc bien sûr, à chaud, c'est difficile de nuancer, c'est difficile de dire, ah oui, là, est-ce qu'il exagère, est-ce qu'il exagère pas, est-ce que voilà. Et d'autres, au contraire, écrivent tellement à froid qu'ils écrivent au soir de leur vie, si vous voulez. Et donc là, il y a vraiment comment l'historien fait aussi la part des choses entre ce qu'on veut laisser, et puis parfois, comment on enjolive un petit peu le récit, et comment, évidemment... Eh ben c'est normal d'oublier des choses. Je sais pas, moi je n'ai que 25 ans, donc je peux pas vous dire. Mais je pense que si dans 50 ans vous me redemandez de citer des époques d'aujourd'hui, des moments d'aujourd'hui, ça va être difficile. Bien sûr. Donc l'historien doit faire la part des choses avec tout ça, et c'est assez important dans la citation. Je vous renvoie à l'ouvrage d'Annette Vivorka, L'ère du témoin, qui parle de cette question.
Alors, dans l'introduction de votre livre, Adrien Louandre, vous précisez une chose, c'est que les chrétiens font partie des déportés politiques, c'est-à-dire qu'ils sont arrêtés et déportés pour ce qu'ils font et non pas pour ce qu'ils sont, contrairement aux juifs raflés. C'est quelque chose d'important, cette précision-là?
Alors c'est excessivement important, et vraiment merci beaucoup de me poser cette question. C'est pour ça que, par exemple, on parlait d'Auschwitz tout à l'heure, que très peu de chrétiens sont déportés à Auschwitz. Une immense majorité sont déportés à Dachau, à Ravensbrück pour les femmes et à Buchenwald. Pourquoi? Parce que c'était principalement des camps de déportés politiques. Première chose. Et deuxième chose, surtout, ça veut dire que ce n'est pas un génocide. Qu'on soit bien clair là-dessus. Alors certes, il y avait des plans d'extermination de l'Église catholique par l'Allemagne nazie, mais qui étaient prévus pour l'après-guerre. Certes, certains ont été déportés pour faits de résistance spirituelle, j'insiste, parce qu'ils étaient chrétiens et parce que ils, je cite, empêchaient de penser allemand, hein, d'après les dires des SS de l'époque, hein, et de Himmler notamment, mais voilà, ils n'étaient pas déportés parce que chrétiens. Vraiment, j'insiste, parce qu'il n'y a pas génocide et il n'y a aucun lieu de concurrence mémorielle. Je l'ai déjà dit, mais vraiment, c'est très important de le redire. Je vous renvoie à la définition donnée par Raphaël Lemkin, hein, qui est un juriste polonais en 1944. Hein, et qui disait qu'il y avait vraiment une destruction totale ou partielle d'un groupe prédéfini voulu.
Dans un génocide.
À aucun moment les... Voilà, exactement, pour le génocide. À aucun moment il y a eu une conférence de Wannsee pour les chrétiens. Voilà, et c'est très important de le dire.
Cette précision est importante à apporter parce que elle explique aussi pourquoi et comment les chrétiens ont pu, dans une certaine mesure, on va le voir, vivre leur foi au sein même des camps, alors dans des conditions parfois inimaginables, mais quand même, la question s'est posée.
Tout à fait, et c'est là où vous avez tout à fait raison, là où la nuance de l'historien, et en plus j'insiste aussi là-dessus, moi j'essaye d'être assez humble, parce que j'ai 25 ans, je l'ai pas connu. Raphaël Ezra, il me disait notamment, vous ne pouvez pas être le témoin du témoin, parce que vous n'avez pas été à Auschwitz, et il a complètement raison. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, Dachau, c'est horrible, c'est insupportable, c'est... inimaginable, mais Dachau, c'est quand même pas Mauthausen. Et ça veut dire qu'il y a quand même des échelons dans l'horreur, même si Dachau, c'est déjà l'horreur de l'horreur. Et ben Mathausen, c'est encore au-dessus. On peut malheureusement pas comparer les prêtres comportés à Dachau, avec tous les guillemets que ça comporte, hein, vous comprenez bien, qui ont été tués à 40%. Alors, c'est insupportable, c'est horrible. Mais c'est pas la même chose d'être prêtre dans la baraque des prêtres à Dachau, où on a même à un moment donné, ils ont même des heures de pause, hein, à un moment donné, ce qui est quand même incroyable, en camp de concentration. Ils ont de quoi pratiquer leur foi dans une chapelle, etc. Et la carrière de pierre de Mathausen. Bon, et après, ce qui est encore plus compliqué, c'est qu'il y a des camps dans le camp, si vous voulez. Selon ce que vous êtes dans le camp, c'est pas la même chose. Donc voilà, c'est pour dire pour l'auditeur, c'est vraiment un sujet qui est extrêmement complexe. Et effectivement, être prêtre à Dachau, c'est pas la même chose que d'être, et je vais même encore pire évidemment, être la famille juive qui va être gazée à Treblinka.
Est-ce qu'on a une idée, Adrien Louandre, du nombre de chrétiens qui ont été déportés?
Alors déjà, ça dépend ce que vous appelez être un chrétien. Être un chrétien, est-ce que c'est être un baptisé? Est-ce que c'est faire fi de votre foi ou parler de votre foi en camp de concentration? Est-ce que c'est s'estimer chrétien a posteriori, etc. Je préfère pas me prononcer. Donc, évidemment, on est sur des dizaines de milliers, hein, bien sûr. Et je parle principalement pour les chrétiens français, puisqu'ensuite, si vous parlez des chrétiens en général, eh bien, évidemment, c'est beaucoup plus nombreux. Mais je vais vous donner un exemple très simple. Un de mes déportés nous disait... La foi orthodoxe ne s'est pas éteinte à Moscou et à Kharkov. Donc vous vous doutez bien qu'un Russe dans l'Union soviétique ne se déclarait pas chrétien, et pourtant il l'était. Voilà, donc c'est très compliqué de donner un chiffre précis, on est sur des dizaines de milliers, j'ai pas beaucoup plus précis à vous donner, parce que, voilà, mais pour vous donner quand même un ordre d'idée, pour vous dire, c'est quand même beaucoup moins que la déportation qui concerne les Juifs.
Adrien Louandre, nous poursuivons ces entretiens avec vous consacrés aux chrétiens déportés dans les camps nazis. Il faut souligner, ce que vous faites d'ailleurs dès l'introduction de votre livre, l'entreprise de déshumanisation que constituent ces camps, où il s'agit vraiment de réduire à rien ceux qui sont regroupés là. En quoi est-ce que cette précision est importante pour comprendre la place de la foi et de la pratique de la foi, notamment pour les chrétiens au sein des camps?
Oui, vous avez tout à fait raison. Alors, pour rappeler un petit peu ce qu'est la déshumanisation, en fait, c'est structurel. Il faut bien le dire, hein, que le camp de concentration est fait pour ça. Quoique, dans les camps d'extermination, sur la chambre à gaz de Treblinka, il y est écrit « Ici est la porte par laquelle entrent les justes ». On parle d'une porte de chambre à gaz. Vous imaginez le sadisme. Et donc, jusque-là, donc ça vous donne un exemple de déshumanisation. Et puis, le déporté, quand il arrive, il est dépouillé de tout, il est nu devant les autres. Alors, vous imaginez un adolescent nu devant ses parents, et de voir ses parents nus, accessoirement. Tondu, avec de l'eau absolument bouillante ou alors gelée, bien fait pour les faire hurler. Les appels à 4 h du matin qui servent strictement à rien à part à détruire le moral. Les déportés sont ce qu'on les nazis appellent des stucs, hein, c'est-à-dire des choses en réalité. Voilà. Et pourquoi c'est important pour la question de la foi? Parce qu'au contraire, la foi chrétienne va réhumaniser. Si vous croyez en Jésus-Christ qui est fait homme, il est fait homme. Donc il réhumanise. C'est le centre même, à mon sens en tout cas, de la foi chrétienne qui est celui de réhumaniser. Là, la vie de prière est extrêmement importante. La vie de foi est extrêmement importante.
Ça réhumanise, encore faut-il arriver à la garder, cette foi, au sein de l'horreur. Alors, qu'est-ce qui fait que ceux qui en ont témoigné, soit se sont accrochés, ont trouvé au sein de leur foi chrétienne une raison d'espérer, de ne pas devenir fou, de ne pas mourir, ou au contraire, un lieu de révolte, de rejet, enfin, quelles sont les attitudes que vous avez relevées face à cette question?
Alors d'ailleurs, la première chose pour moi qui est importante, c'est de voir à peu près les chiffres qui sont donnés par Boris Cyrulnik dans un ouvrage qui s'appelle La psychothérapie de Dieu, qui sont des chiffres dont on peut penser qu'ils seraient à nuancer. Je vais vous expliquer pourquoi, mais ils sont importants. 70% des chrétiens n'auraient pas changé leur rapport à la foi, les chrétiens survivants revenant des camps. Par contre, 16% l'auraient perdu et 13% l'auraient retrouvé. Moi, ça me questionne un petit peu, étant donné qu'en réalité, les déportés, quand ils ont retrouvé leur foi, le disent. Quand ils l'ont perdu, le disent moins. Il y a une honte, surtout à l'époque, dans une France qui est quand même encore très catholique à l'époque. Il y a une honte de dire j'ai perdu la foi dans les camps. Et puis, les déportés ne sont relativement pas compris à leur retour des camps. Donc, c'est difficile à dire. Et donc, dans ces attitudes, j'ai presque envie de vous dire qu'il y a autant d'attitudes que de déportés. Mais ce qu'on peut quand même dire, c'est que les chrétiens qui se sont convertis, notamment,
Convertis dans les camps.
Convertis dans les camps, ça existe. Alors convertis, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit revenus à la foi de leur enfance, mais en réalité la conversion c'est chaque jour. Pour moi la conversion c'est chaque jour. Donc ça veut dire qu'ils ont pu déjà être baptisés, mais ils se reconvertissent parce que, vous savez, au début du carême on dit convertissez-vous et croyez à l'évangile. Donc voilà. Et puis il y en a tout simplement qui n'étaient plus rien du tout et qui plus athées tout simplement ou agnostiques et qui vraiment sont revenus à la foi. Et donc certains, je pense à Bernard Pie par exemple, qui est revenu grâce au témoignage d'un prêtre, grâce à l'accompagnement d'un prêtre. Certains sont revenus en voyant, on en parlera sûrement après, mais en voyant le témoignage de Gérard Sandrier, un moine franciscain qui s'est... Enfin, c'est au bout du bout du bout, quoi. Saint-François, c'est presque l'égal de Saint-François, qui est allé mourir dans les bras des autres, qui donnait sa nourriture, vous imaginez, donner sa nourriture en camp de concentration, c'est inimaginable, aux autres, et puis aller faire du travail supplémentaire. Je vous passe les détails du travail en camp de concentration. Voilà, et donc, au contact de témoins comme cela, pour certains, reviennent la foi. On a aussi des réseaux de militants à l'intérieur des camps de concentration, qu'on appelle les Tarsicius, qui vont, alors on en parlera aussi plus tard, mais donner l'hostie consacrée à des fidèles, qui vont discuter avec eux, qui vont leur permettre de tenir, qui vont faire des groupes avec eux, alors bien sûr très informels, mais qui vont aller leur demander comment ça va. Et c'est des trucs tout bêtes, mais c'est comme ça, en s'incarnant vraiment hein, dans le camp de concentration, que par des militants chrétiens, d'autres retrouvent la foi. Ceux qui la perdent, on peut penser que notamment, alors c'est plus compliqué que ça, mais notamment sont ceux qui n'ont pas eu cette chance d'avoir des réseaux, et puis sont ceux qui cèdent face à l'horreur.
Mais vous parlez aussi beaucoup de la prière.
Oui, alors bon, j'ai aussi des camarades communistes qui priaient pas et qui étaient extraordinairement courageuses et qui faisaient face.
Extrait d'une interview de Geneviève de Gaulle-Antonioz dans l'émission Bouillon de culture du 20 novembre 1998.
Bon, oui, je trouve que moi, vous savez, c'est pas si simple d'ailleurs à ce moment-là la foi. Oui. Moi, je ne dis pas d'ailleurs, je ne dis pas que Dieu n'existe pas à ce moment-là. Mais je dis, parce que ça, je l'ai ressenti comme ça, que Dieu me semble complètement absent de ce monde-là, comme je m'imaginais qu'il pouvait l'être dans l'enfer. Dieu n'est pas là, il ne peut pas être là.
Vous vous adressez à lui, vous dites « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le célèbre cri de détresse.
Pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi n'es-tu pas là ? Mais tu ne peux pas être là, dans cette plongée dans le mal, tu ne peux pas être là.
La suite de l'histoire.
Vivre sa foi, ça passe dans toutes les religions par des rites, par des actes, par des temps de prière. Est-ce que c'est comme ça aussi que les chrétiens, dans les camps nazis, ont vécu leur foi? Et, ou alors, est-ce que ça a été impossible? Quelles sont les sources que vous avez pu trouver qui vous ont permis de comprendre comment cette foi s'exprimait?
Le premier mot qui m'est venu, c'est de vous répondre en toute simplicité. Cette foi s'est exprimée vraiment en toute simplicité. Un prêtre disait que le Notre Père et le Je vous salue Marie sont le cœur de la spiritualité bunkerveldienne.
Vous racontez un moment dans votre livre d'ailleurs qui est bouleversant, de ces hommes qui se mettent tous, quels qu'ils soient, à dire le Notre Père. Pour certains, ça faisait très longtemps qu'ils ne l'avaient pas redit. Puis ils retombent dans cette espèce de désespérance dans laquelle ils étaient quelques minutes avant. Mais là, il y a une espèce de mobilisation et d'énergie qui les pousse à dire cette prière.
Tout à fait, tout à fait. Et je vais vous prendre un autre exemple dans mon ouvrage de deux déportés, cette fois sur le « Je vous salue Marie ». Il y en a un qui dit à l'autre « Aubert, seul ici la religion peut être un secours, est-ce que tu es croyant ?» L'autre qui dit « Bah oui, j'ai fait ma première communion, mais enfin depuis... » Et l'autre qui répond « Aubert, je t'en prie, pense à Dieu, et si tu regrettes tes fautes, je te jure, si tu regrettes tes fautes, tu seras pardonné. » Alors Aubert me prit la main et dans un souffle « Disons ensemble notre prière. » Alors des lèvres de la mort s'échappent pour la dernière fois les paroles divines « Je vous salue Marie ». Ami, je n'ai jamais pu achever cette prière car jamais mon cœur ne fut étreint de telle émotion. Et je vous le dis en étant moi-même ému alors que pourtant ça fait 15 fois que je lis ce passage. Et ça, c'est un témoignage parmi tant d'autres de déportés qui meurent en disant une prière. On est au bout du bout du bout, enfin voilà. Et quand je vous parle de simplicité, l'idée c'est vraiment rendre physiquement présent Dieu dans les camps. Puisque si vous êtes catholique, hein, vous considérez que l'hostie consacrée est véritablement Dieu. Donc, à quoi ça sert de faire une messe? Ça sert de rendre présent Dieu. Sauf que là où c'est compliqué, c'est qu'encore faut-il pouvoir la faire, la messe. Et on fait pas une messe avec rien et en partant de rien. Et donc, je vous prends le témoignage notamment d'un déporté hollandais, Jan Roberts, qui dit, en fait, que lui, il était chimiste. Et comme il était chimiste et qu'il devait être assez bon, les nazis l'ont autorisé à sortir pour aller travailler dans un laboratoire. Et donc, il était gardé par un SS toute la journée, sauf qu'au bout d'un moment, le SS en a eu un petit peu marre, et il négocie avec le déporté pour dire, écoute, tu es rentré ce soir à 18h, si t'es pas rentré, bah, il va t'arriver des bricoles. Du coup, le SS, il allait faire ce qu'il avait à faire la journée. Et ce déporté, Ian Roberts, a pu aller négocier avec l'archevêché du coin pour aller récupérer les hosties consacrées, les ramener en camp de concentration, les distribuer à travers des réseaux de militants, et faire des messes clandestines qui rassemblent 3, 4, 5 personnes. On n'est vraiment pas sur quelque chose d'immense. Mais là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, c'est tellement évangélique. Et en fait, c'est vraiment l'évangile, c'est tellement incarné en camp de concentration. Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Jamais j'aurais pensé que l'évangile puisse s'incarner à ce point dans les camps de concentration.
Donc on célèbre l'Eucharistie, on prie. Est-ce qu'on administre, comme on dit, aussi des sacrements, le baptême, l'onction à ceux qui vont mourir?
Tout à fait. Alors je prends dans mon livre du temps pour examiner chacun des sacrements. Alors il n'y a pas de mariage. Le seul mariage, c'était à ma connaissance, il y en a peut-être eu d'autres, mais c'était au camp d'internement de Compiègne, qui n'est pas un camp de concentration. Les confirmations, j'ai pas connaissance. L'ordination, il y en a une, qui est assez connue, qui est celle de Karl Leissner, même s'il va mourir 11 jours plus tard. Et apparemment, il y a une photo que je n'ai jamais réussi à trouver, mais apparemment, il y a une photo de l'ordination qui, si elle est trouvée, est sûrement la plus belle photo de l'histoire de l'Église, puisque des prêtres de toutes nations différentes réussissent à faire une ordination en passant tout ça clandestinement, gardé par des protestants et des francs-maçons. C'est génial. Et quelques francs-maçons. Donc ça vous donne un peu un ordre d'idée. Le baptême, il y en a eu, puisqu'il y a des robinets quand même dans les camps de concentration, et donc on peut donner le baptême ainsi. Je donne un exemple, par contre, d'un qui n'a pas pu être baptisé, puisque le prêtre lui avait dit « Je suis vraiment désolé, je n'en peux plus, je te baptise demain à l'aube », sauf que le déporté en question est mort entre-temps. Pour ce qui est de la confession qui est peut-être, entre guillemets, peut-être le plus simple à donner, puisque une simple discussion peut être une confession. Puisque les nazis ne savaient pas trop à quel moment ça pouvait être une confession ou pas, et il y a un prêtre à un moment qui se fait prendre, et le SS lui dit « mais je vais te dénoncer », et le prêtre qui lui répond « bah vas-y, dénonce-moi, par contre si tu me dénonces, je dirai à ton supérieur que t'es venu me voir, et t'imagines ce que tu vas prendre si t'es venu me voir ». Ce petit témoignage quand même pour vous dire la force de ce que peut donner la foi, vous imaginez répondre ça à un SS quoi.
Adrien Louandre, qu'est-ce qu'on risque justement si on est surpris en train de célébrer une messe, en train de prier, en train de confesser? C'était strictement interdit?
Bien sûr, bien sûr. C'était absolument interdit et la réponse est très simple, la mort. Ou j'allais presque vous dire pire, la torture puis la mort. Puisque c'était évidemment interdit, sauf dans l'espace très limité de la baraque des prêtres à Dachau. Mais c'est en réalité... En fait, cet espace de la baraque des prêtres à Dachau sert bien les nazis, puisqu'ils avaient bien compris que les chrétiens avaient des réseaux dans les camps et que ça participait à ce qu'on a appelé la résistance spirituelle dans les camps, et que du coup, c'était assez pratique pour eux de les rassembler à Dachau, puisqu'en fait, s'ils étaient rassemblés à Dachau, ils n'étaient pas ailleurs. Et c'était un accord avec le Vatican, mais alors voilà, on faudrait rentrer dans les détails aussi, mais quelque chose de très complexe. Mais donc tout simplement, la mort.
Je pense à Geneviève Antonios de Gaulle qui a raconté comment elle a vécu sa foi dans le camp où elle était internée.
Oui, Geneviève Antonios de Gaulle à Ravensbrück, qui est toute seule, pour des raisons politiques, qui est toute seule dans sa cellule, et qui vit sa foi à travers une prière personnelle très forte, à travers une foi exceptionnelle, et à travers aussi ses amis, qui arrivent à lui faire passer des petits colis, notamment, je pense, au Noël 44, elle raconte très longuement son Noël 44, et des témoignages comme ça. Évidemment, je pense quand même, j'ose présager, qu'il y en a eu certains décrits. Je pense qu'il y en a eu beaucoup d'autres dont on n'aura jamais témoignage. Parce que pourquoi, si Geneviève Antonios de Gaulle a pu le faire, pourquoi il n'y en aurait pas d'autres? Ça, j'en suis convaincu. Et c'est quelque chose, je pense, de très très fort pour l'Église.
Adrien Louandre, on a parlé des sacrements dans le précédent entretien et la façon dont on en a parlé sous-entendait qu'on évoquait plutôt les chrétiens catholiques. Est-ce que vous incluez, vous, dans votre étude et dans ce livre, les protestants et les orthodoxes quand vous parlez des chrétiens dans les camps?
Alors oui, tout à fait, tout à fait. Après, on parle plus des catholiques tout simplement parce qu'il y en a plus. Il y avait évidemment alors des orthodoxes qui ne se disaient pas parce qu'ils étaient russes, donc enfin soviétiques en l'occurrence, donc c'était un petit peu plus complexe pour eux. Et pour le coup, il y a beaucoup évidemment de protestants en Allemagne. Alors, il y a aussi beaucoup de catholiques, mais comme il y a beaucoup de protestants, le régime nazi a eu une attitude pour le moins ambiguë sur cette question. Et je donne au début de mon livre les chiffres, vous montrant qu'il y a beaucoup plus, et notamment en Pologne évidemment, de déportés qui sont catholiques. Donc on va beaucoup plus parler des catholiques, mais il y a évidemment, je pense par exemple au pasteur Aimé Boniface, des témoignages de pasteurs protestants, de fidèles, et de femmes aussi protestantes, D'ailleurs, au passage, il y a aussi beaucoup plus de témoignages d'hommes que les témoignages de femmes, parce qu'on déportait plus de prêtres aussi notamment, et comme je prends les témoignages de prêtres, forcément, ce sont des hommes. J'ai beaucoup moins de témoignages de sœurs, et donc voilà, ça explique tout simplement.
Il y a quand même des religieuses?
Alors, il y a des religieuses, aussi assez peu, et je prends pas l'exemple d'une religieuse catholique, je prends l'exemple de Marie Skobzow, que certains connaissent peut-être, qui est une religieuse orthodoxe, hein, dont un magnifique témoignage aussi. Mais évidemment, il y en a aussi moins, qui à mon sens peut-être s'explique aussi par le fait que des prêtres vont par exemple prendre la parole en chaire, ce qu'une sœur va moins faire. Voilà, et puis ça s'explique tout simplement par le contexte aussi des relations de femmes de l'époque, qui est pas celui qu'on connaît aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a une solidarité entre les catholiques, les protestants et les orthodoxes dans les camps?
Alors, comme tout en histoire, rien n'est ni noir ni blanc, tout est gris. Et donc, j'ai des témoignages qui me disent « Oui, mais alors on était catholiques, d'accord, mais on était français avant d'être catholiques. Et on était quand même plus proche du français communiste que du catholique polonais. » Parce que l'église de Pologne, c'est pas du tout l'église de France, qui n'est même pas l'église d'Italie, ni l'église orthodoxe, le plus l'église orthodoxe russe clandestine. Mais quand même, vous avez d'autres témoignages qui disent « J'ai prié avec un letton et c'était absolument génial ». Donc on a quand même beaucoup de rapprochements de la part de catholiques de tous les pays. Et notamment, je prends des témoignages encore une fois au Noël 44, de chants qui rappelaient tout simplement ce que chacun connaissait, et chantaient « Douce nuit » en latin, et là pour le coup l'intérêt du latin, chanter « Douce nuit » en latin, et tout le monde pouvait le faire, ou de chanter « Adeste Fideles », et ça rapprochait très fortement.
Alors dans votre livre, vous citez une protestante, Marie Fillet-Médard, elle raconte « J'ai trouvé à Ravensbrück Madame Roux, la femme de Charles Roux, pasteur à Marseille. Elle avait réussi à introduire sa Bible dans le camp. » Le dimanche, elle réunissait quelques protestants au coin d'un bloc ou en déambulant dans les allées pour lire la Bible et chanter quelques cantiques. Voilà, donc ça illustre la possibilité que ces chrétiens, ces femmes en l'occurrence protestantes, organisaient quoi, pour pouvoir prier ensemble.
Tout à fait, et c'est quelque chose qui est en fait assez... je dirais pas courant, mais qui arrive quand même assez régulièrement. On pense par exemple à des Bibles ou à l'Imitation de Jésus-Christ, par exemple, qui étaient des ouvrages qui passaient sous le manteau. Vous imaginez quand même le risque que vous prenez. Hein, je rappelle, hein, vous êtes pris, vous êtes mort. Parce que c'est de la résistance spirituelle et une opposition au Reich. Et ça, c'est fait très régulièrement. Et puis, on parlait la dernière fois des réseaux de Tarsicius. Les Tarsicius, qui sont des militants chrétiens, ça renvoie au premier temps du christianisme, qui allaient distribuer l'hostie, et puis ils n'allaient pas juste distribuer l'hostie dans les camps, ils allaient aussi remonter le moral, ils allaient aussi parler de leur foi, évoquer des questions religieuses. Je prends l'exemple de deux personnes, un Français et un Belge, qui étaient de la jeunesse ouvrière chrétienne, et qui se sont reconnus en chantant un chant de la Joc, et ils ont pleuré dans les bras l'un d'autre. Et j'insiste là-dessus d'ailleurs, au passage, beaucoup de témoins se disent comme être les premiers chrétiens sous Dioclétien, sous les persécutions de Dioclétien. Et c'est pour ça qu'ils se soutenaient. Et on a vraiment quelque chose de l'église primitive qui renaît dans les camps de concentration, clairement.
Est-ce qu'on en revient à l'essentiel, finalement?
Ils le disent tous. Comment je dirais ça? Il n'y a plus d'artifice en camp de concentration. Au-delà des vêtements, au-delà de la situation, au-delà de la guerre, ce que vous êtes profondément, et avec vos douleurs, il n'y a aucun jugement de valeur là-dedans, hein, et avec vos douleurs, se matérialise en camp de concentration, tout simplement. On en revient tellement à l'essentiel. Lisez l'Imitation de Jésus-Christ. On ne peut pas faire plus essentiel, à part la Bible peut-être, que l'Imitation de Jésus-Christ. Donc oui, on en revient complètement à l'essentiel.
Ce qui regroupe et ce qui réunit les catholiques, les protestants, les orthodoxes, c'est ces fondamentaux en fait de la foi chrétienne. Est-ce que la Bible les rapproche des déportés juifs?
Honnêtement, j'ai pas énormément de témoignages là-dessus. Aussi pour une raison assez pragmatique, c'est que, alors ce serait à nuancer et à compléter, mais globalement, les déportés politiques, donc les chrétiens, n'étaient pas forcément déportés dans les mêmes camps que les juifs, même s'il y en a un, hein, bien sûr. Et que de toute façon, une conversion, Raphaël Ezra, il parle d'une conversion qu'il a, d'un baptême qu'il a lui-même donné alors qu'il est juif, sachant au passage que c'est complètement correct d'un point de vue canonique, quelqu'un qui est devenu chrétien du coup, et qui quelques secondes après, est mort dans ses bras. Donc oui, il y a des relations entre chrétiens et juifs fondamentalement, mais c'est pas forcément le cœur du propos. Et si les déportés chrétiens le relatent, c'est parce qu'ils le relatent en tête. Même si, bien sûr, elles en ont, et elles sont évidemment très positives.
Si vous voulez, ce que j'ai retrouvé de Dieu, je l'ai retrouvé sur le visage de certains de mes camarades.
Extrait d'une interview de Geneviève de Gaulle-Antonioz dans l'émission Bouillon de culture.
J'ai vu sur les visages la pire détresse, une détresse inimaginable. Quelque chose qui est mort dans l'être humain. Mais j'ai vu aussi ce qu'il y a de plus grand et de plus noble. Et ce n'était pas forcément des femmes qui étaient croyantes, hein. Mais c'était des femmes qui étaient au-dessus de cette destruction humaine, qui devenaient plus humaines. Et alors pour moi, ça, c'était la présence de Dieu.
La suite de l'histoire.
Alors quand vous avez évoqué le rapport à la foi dans les camps, vous avez aussi bien sûr parlé de ceux qui perdent la foi. Est-ce que ce sont des choses qui ont pu se passer alors qu'on est dans un groupe, enfin, alors qu'on est, on est soutenu par des camarades?
Alors, faut quand même remettre dans le contexte, ces réseaux sont quand même, vu l'immensité des camps, assez peu nombreux, finalement. Et d'ailleurs, leur objectif, c'était pas d'abord d'être extrêmement nombreux, parce que plus vous êtes nombreux, plus vous risquez de faire tout tomber. Hein, un réseau de résistance, plus vous êtes nombreux, plus quelqu'un peut vous dénoncer et tout tomber. Et alors, vous imaginez, en plus, la délation était très encouragée dans les camps de concentration par les SS, hein, et donc, évidemment, c'était encouragé. Si vous voulez, c'est, vous pouvez être dans un groupe, vous pouvez être dans, par exemple, mais aujourd'hui, hein, vous pouvez être dans une aumônerie étudiante catholique, par exemple, et perdre la foi parce qu'il y a un truc qui vous a pas plu dans l'aumônerie, parce qu'il y a une rencontre qui vous a pas plu, parce que vous avez été touché par quelque chose à titre personnel. Donc évidemment, il y en a qui l'a perdu, et puis il y en a surtout beaucoup qui perdaient la foi pour la simple et bonne raison qu'ils étaient tout seuls, et puis, je n'ose même pas imaginer, franchement, quand on est historien, j'essaye vraiment de garder cette posture d'humilité. Vous imaginez, vous avez 18 ans, vous venez d'entrer dans les camps de concentration, on vous explique que vos parents sont, je cite, passés par la cheminée. Vous vous doutez bien que la foi de votre enfance, vous risquez de la perdre assez vite. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup plus de déportés qui ont perdu la foi, bien sûr.
Est-ce que entre eux, les chrétiens sont solidaires pour le partage de, du peu de nourriture qui leur est donnée, pour s'épargner certaines tâches lorsque l'un d'entre eux est épuisé? Enfin, est-ce qu'on se protège mutuellement? Vous avez pu repérer des attitudes de ce genre-là?
Oui, bien sûr, bien sûr. Et en fait, c'est tout à fait logique, hein, mais c'est quelque chose de très humain. Et au-delà des catholiques, les communistes faisaient ça, voilà, aussi. Donc c'est assez normal, si vous voulez. Et je prends un exemple, pendant le carême, enfin le carême dans les camps de concentration, on revient toujours à ça, de déportés qui disaient « bon, on va essayer d'aller faire un petit geste ». Et ils ont repéré un déporté qui était, en l'occurrence, un déporté chrétien, il me semble, qui n'allait pas bien. Et ils lui ont donné un morceau de pain spécifiquement à lui, avec un petit cadeau, avec un petit bout de sucre qu'ils ont pris on ne sait pas où, etc. Et puis, je prends l'exemple aussi d'un Hollandais qui fait son signe de croix avant de manger pour son bénédicité, hein, l'importance du bénédicité, et d'autres chrétiens qui l'ont repéré en disant « oula, on va lui parler tout de suite ». Et évidemment aussi, ils ont partagé, avec ce qu'on peut partager, ils ont partagé leur repas. Je ne sais pas si c'est plus important, mais au minimum aussi important, partager leur souffrance, leur raison d'être, et leur raison peut-être d'espérer aussi, et de se battre pour tenir en vie.
Et échanger, partager des paroles, des mots, des encouragements?
Ah bah bien sûr, bien sûr. Alors toujours pareil, hein, faites attention quand vous êtes chrétien en camp à ce que vous dites et à ce qu'on ne vous entende pas trop. Mais dans la mesure du possible, bien sûr, il y a énormément d'encouragement. Un encouragement qui passait aussi beaucoup par les prêtres, qui recevaient presque pour certains et aux heures, je pense au Père Jacques, hein, qui est connu par le film Au revoir les enfants, le Père Jacques qui recevait, j'allais presque dire jour et nuit, si vous voulez, dès qu'il pouvait, dès qu'il avait un instant, il recevait pour se soutenir. Donc bien sûr, cette église-là est extrêmement présente, et on pourrait même aller plus loin. On parlait du rapport entre catholiques et protestants tout à l'heure. Certains témoignages relatent, et j'en suis absolument convaincu, que l'église du Concile Vatican II est née à Dachau. Ça, c'est clair. Pour moi, ça ne fait aucun doute.
C'est-à-dire ?
Ben, c'est-à-dire que cette église qui se parle, cette église qui marche ensemble, cette église qui va discuter, qui va se soutenir, cette église où on ne maudit plus les juifs le vendredi saint, où catholiques et protestants ont une vraie fraternité, voilà, cette église-là, elle est née à Dachau principalement, mais aussi évidemment dans tous les camps de concentration.
Est-ce que les prêtres et les pasteurs ont un signe reconnaissable?
Oui, les prêtres sont reconnaissables. Déjà parce que dans l'administration nazie, il est écrit sur leur registre qu'ils sont prêtres, hein, tout simplement. Et puis, de toute façon, ça se sait dans les camps, puisque les nazis font exprès de dire aux autres déportés que voici, ceux-ci, ce sont des prêtres, parce que ça leur permettait de les stigmatiser et de faire jouer des choses assez basses, on va dire, dans les camps de concentration. Voilà. Après, ceux qui ont un signe distinctif, ce sont les témoins de Jéhovah qui ont un triangle violet, hein, mais il n'y a pas de couleur de triangle, par exemple, exprès sur la veste des prêtres. Enfin, si vous voulez, c'est écrit qu'ils sont ecclésiastiques, si vous voulez. Et donc, c'est parfois, alors pas tout le temps aussi, parce que ça dépend des camps, et des fois, il y a des prêtres qui passent sans dire qu'ils sont prêtres, etc. C'est ce qu'on voit dans le film Amen, par exemple. Mais c'est aussi parfois écrit, et globalement, de toute façon, sur leur vêtement, et de toute façon, les déportés le savent très bien. Et les nazis font exprès que les déportés puissent le savoir.
Pourquoi?
Parce que, notamment, il y a cette, je vous dis, on est vraiment dans le sadisme, que cette heure de repos qui était donnée en 1942, notamment, aux prêtres à Dachau, les nazis font bien savoir que les prêtres ont une heure de repos. Comme ça, ils sont haïs par les autres, et ensuite, ça enclenche quelque chose d'extrêmement sadique, où, enfin, je le raconte plus longuement dans mon livre, mais des choses extrêmement sadiques contre les prêtres à cause de ça.
Adrien Louandre, quand on parle des chrétiens déportés dans les camps de concentration, on pense souvent à la figure de Maximilien Kolb, ce religieux qui s'est sacrifié à la place d'un père de famille et qui est donc mort en martyr. Est-ce que ce type de témoignage est fréquent dans les camps ou c'est tout à fait exceptionnel?
J'ai envie de vous répondre les deux. C'est exceptionnel d'un point de vue de l'immensité de l'horreur des camps. Enfin, faut quand même être clair, c'est peu de gens en valeur absolue. Mais il n'y a pas que Kolb quand même. Et ça, je tiens à le signaler. Et c'est vrai que l'historien va peut-être plus se pencher sur des figures qu'on ne connaît pas. Et je pense énormément à la figure de Gérard Cendrier, que je développe beaucoup, qui est encore un franciscain d'ailleurs, dans un de mes chapitres, que forcément à Maximilien Kolb, dont tout le monde connaît, alors, l'histoire absolument exceptionnelle, un sacrifice...
christique.
Enfin... oui, voilà, exactement, christique. Dans mon ouvrage, je cite deux fois Kolb en trois lignes, mais j'essaie de parler plus longuement d'autres déportés. Donc, je cite Gérard Cendrier, j'essaie de citer le plus possible de témoignages, justement, et notamment des déportés qui allaient mourir en faisant le travail des autres. Je pense à un homme torturé chaque jour, et puis qui, chaque jour, réussissait à aller jusqu'au micro pour dire des choses chrétiennes, « Dieu vous aime, vous allez vous en sortir, vous allez être sauvés, n'ayez pas peur », etc. Absolument héroïque. Donc il y en a quand même quelques-unes des figures comme ça, et il ne faudrait pas les oublier. Et puis, il y aura tous ces héros anonymes, alors qu'est-ce qu'un héros? On pourrait les débattre plus longuement, mais tous ces héros anonymes, auxquels l'historien ne pourra jamais faire mémoire, puisqu'ils n'ont simplement pas laissé de traces.
Certaines figures que je citais dans l'introduction de cette émission restent dans les mémoires parce que soit ils ont écrit des livres ou bien ils sont devenus célèbres après leur déportation. On a déjà cité Geneviève Antonioz de Gaulle, pour qui Ravensbrück a été vraiment une expérience à laquelle elle faisait souvent référence.
Oui, tout à fait, et on pourrait citer très longuement Edmond Michelet, hein, sur lequel je termine mon ouvrage, parce qu'il dit « Chacun retient ce qu'il veut des camps de concentration, je retiens, moi, l'espérance en l'homme ». Si jamais on vous dit que la foi ne déplace pas des montagnes, parlez aux gens des déportés chrétiens. Si, la foi déplace des montagnes, peut déplacer des montagnes en tous les cas. Et puis, on pourrait vraiment en évoquer bien d'autres, on pense notamment par exemple à Éloi Leclerc, à Jacques Sommet, et on pourrait en citer encore bien d'autres.
Vous avez proposé à la fin de votre livre un entretien avec Raphaël Israël, qui est le président du Nom des déportés d'Auschwitz, ancien résistant, déporté lui-même dans ce camp. En quoi est-ce que c'était important pour vous de lui donner la parole?
Alors déjà parce que j'avais eu la chance de le rencontrer auparavant, et puis parce que c'est un homme d'une grande humilité, avec un grand esprit de service, et je le dis... avec un profond respect, et puis parce que, si vous voulez, j'insiste véritablement là-dessus, l'historien, j'allais presque dire, ne peut pas comprendre ce qu'il écrit. Bien sûr que si, il comprend rationnellement ce qu'il écrit, mais moi j'ai 25 ans, j'ai eu l'immense chance d'être dans une Europe en paix, j'ai même pas fait de service militaire, et je dois parler du paroxysme de l'horreur. Donc qui suis-je, en tant qu'historien, qui n'est que des références livresques, pour parler de quelque chose que je n'ai pas vécu. Et si vous voulez, moi je suis très attaché, même dans le monde universitaire en général, à du vécu, à quelque chose de palpable, à vraiment la force des témoins. Et donc ça aurait été très compliqué pour moi de finir cet ouvrage sans interviewer un déporté, et puis qui, de surcroît, est président de l'Union des déportés d'Auschwitz, qui a un témoignage que je vous invite vraiment à lire, hein, L'espérance d'un baiser, qui est paru chez Michel Lafon, je crois, Robert Lafon, pardon, en 2017. Et puis, il y avait aussi cette force pour moi de dire que dans cette recherche de la vérité historique pour les chrétiens dans les camps nazis, il y avait cette idée qu'on ne peut faire cette recherche qu'en étant main dans la main avec les juifs.
Et comment lui a-t-il accueilli votre travail sur les chrétiens dans les camps ?
Alors, il a très bien accueilli des échanges que l'on a pu avoir, notamment par quand même par la rigueur du travail et par le fait d'essayer, et c'est là le rôle de l'historien, d'essayer de trouver, je vous disais, la vérité historique. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il a quand même assez bien accueilli. Je suis pas du tout en train de vous réciter un catéchisme, et notamment sur des questions théologiques. On essaye ensemble de trouver la vérité, et donc on va citer à la fois des gens qui ont trouvé la foi, d'autres qui en ont perdu, d'autres qui... On parlait tout à l'heure du rapport à la nationalité, voilà, d'autres qui se sont rapprochés des autres parce qu'ils étaient français, d'autres qui se sont plutôt rapprochés des catholiques. Voilà, on essaye vraiment d'avoir le plus grand panel possible pour donner au lecteur et aujourd'hui à l'auditeur quelque chose de plus large possible pour qu'il comprenne, l'appréhende le mieux possible les camps de concentration.
La suite de l'histoire.
Alors, tout au long de votre livre, on croise des noms de personnes, disons, alors qui par définition ne sont plus anonymes, puisque vous les nommez, mais qui ne sont pas connues du grand public, qui sont des figures marquantes dans cette histoire des chrétiens déportés dans les camps. Est-ce qu'il y en a une ou deux de ces figures qui vous ont particulièrement touché, bouleversé peut-être, même en tant qu'historien et dans votre démarche qui essaie d'être la plus rigoureuse possible?
Et en fait, vous pointez quelque chose d'excessivement juste dans votre question, c'est que, en tant qu'historien, mais il y a aussi la question de la neutralité en histoire, hein, qui est une éternelle question, qui est quand même parfois assez difficile à trouver sur cette question. C'est très difficile. De toute façon, elle n'est pas, et d'ailleurs, j'insiste, elle n'est pas à trouver sur cette question. Vous pouvez pas être neutre, c'est pas possible, entre des déportés victimes et l'horreur de l'horreur. C'est pas possible. Donc moi, il y avait deux témoins qui me touchent beaucoup, alors qui ne sont pas des gens qui ont été déportés, mais qui, je pense, traduisent beaucoup la pensée des militants chrétiens en général, qui sont Hans et Sophie Scholl, qui sont des résistants allemands qui ont été décapités en 1943. Et un membre de leur famille, en écrivant un livre, disait que une voix intérieure assez résistante leur disait « Vous avez raison, persévérez, même si tous vous abandonnent. » Et à ce moment, donc au moment de leur mort, leur Christ leur apparaissait comme un grand frère, toujours présent, encore plus proche d'eux que la mort, qui s'est engagé sur la voie du Christ, la voie de la vérité, la voie qui répond à tout. La voie de la vie, la grande vie sublime, ne peut plus revenir en arrière. Et je pense que ça traduit énormément, pour répondre à votre question, tous ces anonymes militants chrétiens. Et puis, il y a la figure de Gérard Sandrier, moi, qui m'a vraiment grandement touché. Pourquoi ? Parce que Gérard Sandrier, on en parlait, hein, c'est celui qui ira jusqu'au bout de son idéal franciscain. Et puis, des déportés chrétiens présents autour de lui pendant sa mort, on dit... On a vu le diable dans les yeux des SS, mais on a vu Dieu dans les yeux de Sandrier. Et ça répond, on en parlera plus tard, mais à des questions philosophiques sur ce que pose Hannah Arendt sur la banalité du mal. Et bien là, on a la banalité du bien. Et c'est ça, en fait. Elles sont marquantes par leur banalité du bien. Alors, dans tout le contexte des camps de concentration, bien sûr, mais voilà. Et tout ça pour dire, vraiment, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Il y en a beaucoup. Alors, on parle de tout cela, mais il y a tous ces militants, tous ces anonymes que l'histoire ne pourra jamais toucher. J'insiste beaucoup là-dessus.
Il y a aussi un autre nom qui est souvent cité, c'est celui de Marcel Callot. Vous pouvez nous en dire un mot ?
Alors Marcel Callot, justement, c'est un petit peu comme Maximilien Kolbe, c'est quelqu'un dont on parle beaucoup, et donc volontairement, j'ai essayé de ne pas trop m'attarder sur lui.
C'est vrai qu'il est très peu présent dans ce livre, mais il est cité, bien sûr, hein, un jociste.
Oui, il est bien sûr. Bien sûr, il est cité. En plus, Marcel Callot, il a un parcours assez particulier, puisqu'il a fait du scoutisme, il a fait aujourd'hui du Mège, c'était la croisade eucharistique, il a fait de la JOC. Oui, et Marcel Callot fait partie de ces personnes, de ces militants, qui ont voulu faire exister le Christ en faisant de la résistance spirituelle dans les camps. Pour certains, alors, toujours pareil, on n'est pas du tout dans un génocide, mais certains déportés l'ont été parce qu'ils étaient réquisitionnés au STO, le service du travail obligatoire, et donc ils étaient en camp de travail, donc là pour le coup c'était vraiment des camps de travail, et pour des faits de résistance spirituelle dans les camps, nous disent les décrets nazis, ils ont été ensuite déportés en camp de concentration. Voilà, et donc Marcel Callot, c'est l'exemple de ce chrétien qui fait de la résistance spirituelle.
Dans votre livre, vous parlez du christianisme et du catholicisme, peut-être encore plus particulièrement, qui est en quelque sorte une manière d'apprendre à mourir. La bonne mort, est-ce que la question s'est posée en ces termes-là dans les camps de concentration ?
Est-ce qu'il peut y avoir une bonne mort dans l'horreur ? Je ne pense pas. Maintenant, si vous savez que vous allez mourir, il y a quand même... c'est typiquement le genre de question qui est très difficile à répondre quand on ne l'a pas vécu. Mais est-ce que vous allez mourir en essayant jusqu'au bout de grappiller la moindre miette de pain, quitte à les voler aux autres ? Je tiens à préciser qu'il n'y a strictement aucun jugement de valeur dans ce que je dis. Ou est-ce que, grâce à votre foi, grâce au lien que vous avez avec d'autres, vous avez la force de dire non et de résister à la déshumanisation et par votre foi de dire non jusqu'au bout pour aller soulager la foi des autres. Donc oui, c'est une question qui s'est posée dans les camps de concentration, qui s'est posée à chacun. Mais quelle question difficile dont chacun a eu sa réponse. Il y a eu autant de réponses que de déportés, je pense.
Et la question du martyr ?
Alors oui, bien sûr, bien sûr. Alors là, il y a cette phrase que j'aime beaucoup, qui est rapportée notamment, on le disait, par Etil Soum, qui est « Les nazis disent, mais tu sais que j'ai le droit de te tuer ?» Et les déportés répondent « J'ai le pouvoir d'être tué. » Et c'est quelque chose qui renvoie, encore une fois, vraiment au premier chrétien, du premier temps du christianisme. Donc des gens, comme, et on reprend cet exemple de Cendrier, mais bien sûr, il n'est pas le seul, ont choisi d'aller jusqu'au martyr, d'aller jusqu'au bout. Et martyr, martus en latin, ça veut dire « porter témoignage ».
Au nom de leur foi.
D'aller, ouais, exactement, d'aller jusqu'au bout, au nom de leur foi, et d'aller dire, voilà, c'est parce que je suis chrétien que je vais aller jusqu'au bout. La jeunesse étudiante chrétienne avait comme devise dans les années 30, tout l'évangile dans toute la vie. C'est ça, et ils sont allés jusqu'au bout du bout, et pour nous dire, voilà ce qu'est le christianisme. L'évangile, c'est tout ce que vous voulez, sauf mielleux. C'est quelque chose de combattant, qui... vous prend en trip dans toute votre vie. Et qu'est-ce que Dieu, finalement ? Et c'est la question à laquelle répondent les déportés par leur témoignage. Je vous renvoie à l'évangile et tout simplement, Dieu est amour. Voilà, c'est ça que montrent les déportés dans les camps de concentration et c'est ça qui est fondamental.
Adrien Louandre, pour les philosophes, pour les théologiens, pour les penseurs, il y a un avant et un après Auschwitz, comme si les questions métaphysiques du sens, de ce qu'est un homme, de la foi, avaient été questionnées et remises à plat par cette expérience de l'horreur, de l'enfer qu'ont été les camps de concentration et les camps d'extermination. De quelle façon, selon vous, la foi chrétienne est questionnée par cette expérience des camps ?
Alors vous avez tout à fait raison, il y a un avant et un après, c'est indéniable, et même dans la pensée chrétienne, parce que il y a bien sûr encore plus un avant et un après, évidemment, dans le judaïsme, mais évidemment aussi dans la pensée chrétienne. Alors, j'ose espérer que après les camps, on ne peut plus dire certaines choses sur le christianisme. C'est la question éternelle de la kénose, qui est dans les deuxième lettre aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11, de nous dire en réalité qu'est-ce que la toute-puissance de Dieu ? Si Dieu est tout-puissant, il est par sa petitesse. Je développe très longuement cette question dans mon ouvrage, qui est absolument fondamental, et de dire qu'on ne peut plus considérer, après Auschwitz, et j'irai jusqu'à dire qu'en fait, on aurait dû depuis très longtemps ne plus considérer ça, et au minimum depuis le génocide arménien, considérer que Dieu pouvait être tout-puissant, c'est-à-dire ce Dieu dans les nuages qui va se gorger de louanges, qui va faire tout ce qu'on lui dit parce qu'on fait des pactes avec Dieu et que si on est gentil, bah Dieu va nous récompenser, c'est comme le Père Noël, si on a été sage, il va nous donner des cadeaux. C'est un Dieu adolescent, c'est un Dieu qui n'a jamais existé, c'est un Dieu qui n'est pas le Dieu de la Bible, le Dieu de l'Évangile. Et les déportés chrétiens, par leur témoignage, parce qu'ils ont vécu, nous le montrent à chaque instant.
Mais alors la question de la présence de Dieu dans les camps, comment est-ce qu'elle s'est posée et quelles réponses les déportés y ont-ils apporté justement à cette question abyssale ?
Il faut pouvoir déjà faire une réflexion sur la foi dans les camps. Parce que quand vous êtes déporté, évidemment, c'est très compliqué. Et certains prêtres disaient ne même plus se rappeler de formules de prière. Donc vous imaginez, pour établir une pensée philosophique construite sur, en fait, c'est quoi la kénose, la toute-puissance de Dieu, est-ce que Dieu peut être à la fois tout-puissant et amour ? Donc la question de la kénose et celle de la théodicée, on en reviendra aussi, Voilà, vous comprenez que c'est très difficile. Ensuite, les réponses qui ont été apportées, c'est d'abord l'éternelle réponse de dire que Dieu permet sa liberté à l'homme. Et donc, parce qu'il permet sa liberté à l'homme, parce qu'il entre dans son propre plan divin, que l'homme fait ce qu'il veut, il entre cette variable aléatoire, eh bien, Dieu laisse faire. Il y a aussi, et j'en suis convaincu, à titre personnel, mais aussi parce que beaucoup de déportés en sont convaincus, et c'est d'ailleurs au passage, c'est là que des fois, et vous, en la fin de mon ouvrage, je laisse un chapitre où je donne personnellement mon avis, où je sors du rôle de l'historien pour laisser parler le chrétien et donner mon avis. Mais là, vraiment, je sors du rôle de l'historien. Évidemment, c'est complexe, ça me tenait à cœur de pouvoir avoir des propos forts là-dessus. Mais donc, certains vont dire, bah, Dieu, il s'est voulu cacher. Isaïe 45, 15, vraiment, Dieu, tu es un Dieu qui se cache. Et oui, il va se cacher dans une hostie perdue au fin fond des camps. Il va se cacher dans quelques paroles, dans ses martyrs, on en parlait, dans ses témoins. Il va se cacher dans ce Noël qu'on a vécu ensemble, dans ces chants qu'on a faits. Il va se cacher dans une discussion. Il va se cacher dans le souvenir d'une mère qu'on espère revoir. Pour Raphaël Israël, il était peut-être, alors j'espère qu'il serait peut-être qu'il serait d'accord avec ça, mais qu'il serait dans cet amour qu'il portait à Liliane, sa femme. Et c'est ça peut-être qu'il a porté. Alors est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est pas Dieu? Puis-je répondre à cette question? Bien sûr que non.
Cette histoire de déportés obligés d'assister à des pendaisons, l'un d'entre eux questionne l'autre en lui disant « Il est où ton Dieu ?» Et le déporté qui répond « Il est là, pendu devant toi. » C'est Elie Wiesel, je crois, qui raconte cette histoire.
C'est Elie Wiesel.
Qu'est-ce qu'elle dit, selon vous?
Elle dit beaucoup de choses. Elle dit beaucoup de choses. Pour remettre dans le contexte, c'est un enfant de 12 ans. Excusez-moi, cher auditeur, pour ce propos, mais c'est la vérité. C'est un enfant de 12 ans qui a été pendu. Et en fait, la corde était trop courte. Donc le petit est resté une demi-heure avant de mourir. Et faut savoir que les déportés qui réussissaient à tenir assez longtemps ne pleuraient jamais dans les camps de concentration. Et bien là, il y avait un effondrement de beaucoup d'entre eux. Parce que là, c'est trop. Les enfants, c'est un seuil. Et les juifs ne répondent pas à cette question, ils n'arrivent pas à répondre, ils se torturent avec cette question de où est Dieu. Et beaucoup de juifs perdent la foi là-dessus, mais évidemment, bien sûr, on les comprend tellement. Et les chrétiens disent, Jésus est là. C'est Jésus qui, à travers cet enfant, est pendu. C'est comme une deuxième crucifixion. Mais si on s'arrête là, nous sommes au Vendredi Saint. Mais il y a autre chose, il y a l'espérance de Pâques. Et le philosophe protestant et théologien Jacques Ellul disait que la rigueur historique est bouleversée par l'espérance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, même au-delà de ça, que l'amour même a été pendu par la barbarie nazie. C'est un passage qui peut être le passage le plus, en tout cas un des plus difficiles de mon ouvrage, et de l'histoire en réalité de la déportation. Et je vais même vous dire, pour moi dans ma recherche historique, il y a eu un avant et un après ce passage, quand j'ai travaillé cette question.
Là, on bute quand même sur un immense mystère, c'est-à-dire la capacité de l'homme à détruire son semblable de manière systématique, organisée, pour ce qu'il est. C'est une question abyssale d'un point de vue philosophique et d'un point de vue théologique, qui ne cesse d'être questionnée depuis.
Qui ne cesse d'être questionné. Et je vous renvoie au magnifique discours du pape à François à Yad Vashem en 2014, où en citant la Bible, et depuis même le livre de la Genèse, il dit « Mais où es-tu homme? Qu'as-tu fait de ton frère ?» Et le pape lui-même ne répond pas et n'arrive pas à répondre. Il y a toujours, je vous dis, j'essaye de trouver quelques petites réponses, quelques parties de réponses, mais bien sûr, le mystère est abyssal. Mais s'il y a une partie de réponse à trouver, elle est dans le vécu des déportés qui sont racontés ici. Et puis, j'invite aussi l'auditeur, s'il le peut, à vraiment se plonger dans les témoignages. Je pense à Ginette Kolinka, par exemple, qui est une déportée encore vivante. Mais voilà, mais plongez-vous dans le témoignage des déportés, pas parce que c'est difficile, pas parce que c'est glauque ou que sais-je, mais parce que véritablement, les témoignages des déportés posent des questions tellement énormes qu'en réalité, elles vous concernent directement. Chaque auditeur, je pense, est concerné par toutes ces questions.
Parce que ce sont des questions existentielles et fondamentales, au fond.
Finalement, c'est qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que l'homme? pourquoi toutes les violences, pourquoi toutes les horreurs, si vous avez eu une violence, une horreur dans votre vie. Eh bien, peut-être qu'en lisant cette fin d'ouvrage sur, notamment sur l'amour et sur les camps de concentration et cette réflexion, j'espère en tout cas de tout cœur que vous y trouverez une réponse. On a aussi beaucoup de détails, par exemple, sur le silence. Pourquoi Dieu ne répond pas? Et Benoît XVI dit notamment que le silence fait partie de la parole et que dans les livres des rois, on dit que Dieu est une voix subtile qui sort du silence. Alors comment interpréter cette voix? Comment comprendre ce qu'est le langage de la croix, qui, comme le dit saint Paul aux Colossiens, est le langage de la puissance de Dieu? Voilà, toutes ces questions-là sont des questions qui sont détaillées et qui, bien sûr, la question de la croix nous concerne tous.
Le titre de votre livre, Adrien Louandre, et on va finir avec ça, c'est une affirmation, ça n'est pas un titre sous forme interrogative. Dieu n'est pas mort en enfer. Les chrétiens dans les camps nazis, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer les choses de cette manière ?
Tout simplement, nous ne serions pas en train de nous parler si ce n'était pas le cas. Puisque, déjà, par définition, si vous êtes catholique, Dieu était présent en enfer puisqu'il y avait des hosties consacrées dans les camps. Donc déjà, d'un strict point de vue physique, si vous êtes catholique et que vous y croyez, Dieu n'est pas mort en enfer. Et puis, si Dieu était mort en enfer, et cette question est encore vertigineuse et abyssale, ces déportés n'auraient pas réussi à nous transmettre ce témoignage, n'auraient pas vécu ce qu'ils ont vécu. Même pour ceux qui n'ont pas réussi à nous transmettre, bien sûr, il n'y aurait pas eu toutes ces conversions au christianisme, ces gens qui, je pense à Magdalen de Lafont, qui ont vécu le pardon eux-mêmes. Alors bien sûr, là où la question est vertigineuse et abyssale, et il faut remettre en perspective, c'est que très peu sont ceux qui ont eu la force, la chance, ou que sais-je, de vivre cette expérience. Alors, bien sûr, on pourra nous dire que pour l'immense majorité des cas, Dieu est mort. Pour cette minorité-là, Dieu est vivant. Alors ça renvoie encore à d'autres questions. Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que la vie? Est-ce que si certains ont vécu, est-ce que Dieu est encore vivant? Voilà, mais pour moi, il n'y aurait pas eu les sacrements, il n'y aurait pas eu cette solidarité, il n'y aurait pas eu aussi toutes ces associations qui, en réalité, je pense par exemple au Secours catholique, qui ont été créées au lendemain de la guerre et en grande partie par des déportés, si Dieu était mort dans les camps. Et puis, il y a même une définition extrêmement littérale. Si Dieu est amour, l'amour, que je sache, est encore, en tout cas je l'espère, mais on le vit, je pense, chacun, et j'en suis même certain en réalité, on le vit chacun cet amour chaque jour. Donc si Dieu est amour, alors oui, bien sûr que Dieu n'est pas mort en enfer, puisque Dieu est amour, et puis je vais finir là-dessus, si Dieu est mort, bah évidemment, par cet enfant par exemple, Dieu est mort. Oui, certes, Dieu est mort, mais surtout, il est ressuscité.
Et puis peut-être qu'il faut revenir, pour terminer, sur le fait que, vous l'avez dit vous-même, hein, la théologie, le questionnement, et puis l'Église, dans ce qu'elle est, ont été bousculées par cette expérience tragique de l'histoire de l'humanité, nous ont obligés à reposer la question de Dieu et des fausses images de Dieu. Peut-être que nous sommes les héritiers aujourd'hui de la pensée qui a découlé de cette expérience.
En tout cas, ce Dieu-là aurait dû, et c'est presque, on va presque renverser le titre, ce Dieu-là aurait dû mourir dans les camps de concentration, ce Dieu tout-puissant, extrêmement enfantin. Et parce que dans les camps de concentration, c'est un Dieu adulte qui ressuscite. C'est ce qui est véritablement Dieu, c'est-à-dire une relation d'amour, en fait, en réalité, tout simplement. Eh bien, j'espère que ce Dieu-là est ressuscité, et qu'est-ce que j'aimerais que ce Dieu aux représentations enfantines soit mort. Mais pour cela, ça demande, bien sûr, du travail, et j'invite ceux qui le peuvent à, bien sûr, se plonger. Alors, la théologie, c'est pas des gros mots, en fait, en réalité. J'ai 25 ans, je suis pas théologien, j'ai fait un tout petit peu de théologie, et ça m'a, en tout cas, personnellement, ça m'a aidé beaucoup. Donc, pourquoi pas vous, en fait, en réalité.
Votre livre s'appelle « Dieu n'est pas mort en enfer, les chrétiens dans les camps nazis ». Adrien Louandre, merci beaucoup de nous en avoir parlé dans cette émission. Il est publié aux éditions Salvator et je rappelle que vous êtes diplômé d'un master en histoire de l'université de Picardie-Jules Verne et puis que vous animez également des réseaux de solidarité et puis on vous entend très régulièrement par ailleurs sur l'antenne de RCF. Un grand merci à vous.
Merci à vous, merci à RCF.